Ah oui. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue de ma part. Je suis heureux de passer cette journée avec vous. Jérémy m'a demandé de me présenter brièvement. Au départ, je suis musicien. Puis après, ayant enseigné dans un institut biblique, j'ai été piqué par le virus théologique. J'ai été étudié à la faculté d'Aix-en-Provence, que j'avais choisi parce qu'il y avait là un programme intéressant du point de vue de l'art et de la recherche du rapport entre l'art et l'existence chrétienne, et la vie chrétienne. Et puis je suis resté collé à Aix-en-Provence comme professeur de théologie pratique et comme directeur de la chorale. Après quoi je suis devenu pasteur en Belgique, tout en continuant à donner un certain nombre de cours, particulièrement en matière de liturgie et d'hymnologie. Voilà mon petit parcours en quelques mots. Myriam, qui est ici, est mon épouse et accompagnatrice quand nous faisions du violon et du clavecin ensemble. Alors, je suppose que c'est spécialement pour me faire plaisir que la programmation musicale parisienne en ce lieu, je ne sais pas si vous le connaissez, de vue comme ça, probablement pas, eh bien, c'est le Théâtre des Champs-Élysées et qu'est-ce qu'on y joue ce soir? Eh bien, Die Schöpfung, la création. C'est tout à fait dans notre thématique, la création de Joseph Haydn. Et alors, spécialement pour me faire plaisir, sous la direction de Philippe Herwege, qui est un Gantois, et Gand en Belgique est la ville où nous avons fait nos études musicales, nous aussi. Donc voilà, on se sent très, très flattés, mais c'est trop tard pour prendre des tickets, tout est vendu. Donc voilà, c'est dire si c'est à la fois une pièce, mais aussi des exécutants qui ont du succès. Alors souvent, cette œuvre de Haydn est présentée sur des affiches ou comme ici sur un disque avec, voilà, cette image. Vous connaissez, je suppose, on reconnaît directement, n'est-ce pas, cette image de la chapelle Sixtine. Et c'est quand même impressionnant. Il suffit de montrer comme ça ses deux mains et directement, visuellement, eh bien, on reconnaît. Dans notre tête, il y a déjà l'ensemble. C'est une des caractéristiques de l'art, c'est que par des simples références, on peut évoquer déjà beaucoup. Mais voilà, donc, ça c'est juste anecdotique par rapport à ce soir. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous lire un passage biblique sur lequel on va revenir plus tard. Et c'est dans le livre de la Genèse, mais pas au premier chapitre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué, par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel, il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Ensuite Caïn bâtit une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils. Enoch fut l'ancêtre d'Irad qui eut pour descendants Mehuyaël, Metuchaël et Lémec. Lémec épousa deux femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Tsila. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre ou de la flûte. Tsila, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Je vous invite à prier un instant. Seigneur Dieu, nous voulons te demander de nourrir notre foi et de nourrir aussi notre foi d'artiste. Mais surtout notre foi d'enfant de Dieu au travers de cette journée. Et permets Seigneur que nous puissions toucher à ce qui peut nous encourager nous conduire aussi dans les dons que tu nous donnes et dans les ministères que tu nous confies. Que cela, Seigneur, puisse se faire pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ. Amen. Alors, création, chute, rédemption, il faut d'abord, on a appelé ça un schéma. Qu'est-ce qu'un schéma ? Dans un cours qui est rendu disponible sur le réseau de théologie évangélique, auquel participent des personnes comme Jean de Corvet, Robin Ries, Valentin Cruchet, Kesha Vie et Jean-René Moret, on trouve cette phrase: parmi les outils de pensée qui aident à comprendre la Bible et en situer les diverses parties dans le bon cadre, il en est un dont l'application est très large. Il est non seulement utile en ce qui concerne la Bible, mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure et développer une compréhension biblique de l'homme dans le sens de l'humain. Il s'agit du schéma création-chute-rédemption. C'est une manière de résumer la situation de l'homme dans le monde et devant Dieu, et de l'action de Dieu à l'égard de l'homme et du monde. Mais qu'est-ce qu'un schéma ? Et ce que vous voyez en ce moment vous fait penser à une personne humaine. Et pourtant, ce n'est pas la représentation directe, ce n'est pas une photo, une photographie ou un dessin ou une peinture d'un homme humain. C'est un humain, c'est un petit bonhomme fil de fer. On peut même encore le simplifier. Et vous voyez encore toujours une figure humaine, vous identifiez. Et bien, un schéma, finalement, c'est ça. C'est une simplification à l'extrême d'une réalité beaucoup plus complexe. Évidemment, le schéma, on peut l'enjoliver, on peut le prendre comme point de départ pour un développement artistique, on peut aller de plus en plus loin dans le redéveloppement du schéma, et puis vraiment, alors ici avec un ami Francis Méhan, on peut vraiment pousser à l'extrême de nouveau la complexification la complexification du schéma. Bon, mais ça c'est pour nous mettre d'accord sur ce terme. Ensuite, par métonymie, on va utiliser le mot schéma qui était à l'origine concernant du pictural, du dessin, on va l'utiliser comme un outil de langage. Et au fond, création, chute, rédemption est le résumé d'une vision du monde. Quelle vision du monde ? Une vision du monde dont on veut qu'elle soit nourrie par la Bible. Alors, vision du monde, contemplation du monde, conception du monde, représentation du monde, depuis, disons, le 19e siècle, cette notion s'est répandue, a pris ses marques. Une remarque par rapport à ça: vision du monde suppose un regard, et ce regard, c'est celui de l'individu. Juste garder ça en mémoire. Donc une vision du monde, c'est la façon dont un individu, éventuellement on élargit à des individus, et leur façon de voir le monde. L'anthropologue ou l'ethnologue va utiliser la vision du monde en essayant de la compléter avec un maximum de détails, mais il y a une autre utilisation, et parfois on sent qu'on balance un petit peu entre les deux, c'est une utilisation philosophique. L'anthropologue va dire, ben voilà, dans la vision du monde de ce groupe ethnique X, on va trouver des institutions, une certaine forme de religion, des relations sociales, des positions de l'homme, de la femme, des enfants, des vieillards, etc. Des rites, des éléments de droit, des institutions judiciaires aussi, par exemple, etc., etc. Donc, on va aller de la vision du monde, du moins la vision du monde, ça va être le total de tous ces éléments. Mais en philosophie, et la théologie a plutôt tendance à suivre le courant philosophique, on va chercher l'essence. On va essayer de résumer en quelques termes quelque chose qui est beaucoup plus global. Et en fait, quand nous parlons de création, chute, rédemption, c'est plutôt sur cette piste-là que nous nous trouvons. Donc c'est une sorte de condensation, de résumé. Oui, mais qu'y a-t-il dans ce résumé ? Donc, bon, j'ai pas fait, mon PowerPoint n'est pas génial, mais c'est juste pour avoir quelques repères. Donc, création, chute, rédemption, création. Voilà. je reviens à mon ami peintre qui a représenté la création de cette manière-là. Spontanément, si nous disons création, chute, rédemption, nous pensons à trois moments. Le premier moment, c'est Genèse 1 et 2, création. Chute, Genèse 3. Et puis rédemption. Alors là, vous pensez à quoi ? Oui, ça c'est beaucoup ça. Oui, tout le reste, oui, voilà, magnifique, oui. Et s'il y a un point de référence qu'il faut faire sortir par rapport aux autres, ce serait la croix. Oui, en tout cas Luther aurait dit que c'est la croix, ça c'est certain, n'est-ce pas ? Donc, alors, création, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, on a fait remarquer que le verbe bara en hébreu est utilisé à deux exceptions près, toujours en rapport avec Dieu, donc c'est Dieu qui crée. Par contre, nous avons tendance à dire, donc Dieu il crée ex nihilo. Alors, ça nous prendrait trop de temps de le faire, mais relisez le psaume 104, et là vous allez voir que Dieu ne crée pas seulement ex nihilo. Mais je vais y revenir aussi dans un instant. Mais donc, création, c'est un mot quand même un petit peu bizarre, parce qu'il peut désigner le fait de créer, donc l'acte créateur, ça c'est une création, quelque chose que j'ai fait, mais aussi la chose créée, c'est le même mot. Donc, il faut toujours s'entendre sur ce qu'on comprend par là. Toujours est-il qu'il y a une matière qui est créée, l'univers, la Terre, avec tout ce qu'elle contient, vivant et inerte. En tant que musicien, j'aime bien dire que Dieu a créé le monde des sons avec tout le potentiel qui est, bien sûr, contenu dans cette matière. Dieu a placé l'homme au milieu de cette matière et l'homme aussi, enfin l'homme, l'humain, a un potentiel. Il est capable de faire un certain nombre de choses avec cette matière. Plus que cela, il y a non seulement un savoir-faire, il y a aussi un savoir-percevoir. Donc, à partir de la matière, l'être humain est capable de faire des choses et il peut charger ces choses d'une signification et cette signification et cette chose peuvent être perçues par les autres personnes. Je pense que c'est important de ne pas seulement voir le faire, mais aussi cette capacité de percevoir qui va conditionner aussi souvent le faire. Donc, il y a trois potentialités qui sont placées véritablement dès le début de notre histoire, de notre histoire humaine. Et puis, il y a la chute. Alors, c'est incontournable. J'ai quand même un tout petit peu regardé dans ce classique d'Henri Blocher qui nous dit « La tradition des églises, des commentateurs et des théologiens donne ce titre au troisième chapitre de la Genèse, la chute. » Rien dans le texte pourtant ne suggère cette métaphore. Elle pourrait mal aiguiller les pensées du lecteur en lui faisant croire que le drame fut de soudaine dénivellation métaphysique, chute du céleste dans le terrestre, matière inférieure. La Bible condamnerait pareille insinuation de thème grec et gnostique. Donc la chute, en fait, c'est le mot que nous connaissons. Eh bien, c'est comme Trinité, ce n'est pas vraiment un mot de la Bible. C'est un terme, je dirais, de convention théologique, convention d'église, donc le terme convenu pour parler d'une certaine chose. Mais si on regarde en anglais avec fall, et puis vous regardez en français, eh bien, vous n'allez pas trouver grand-chose dans la concordance à chute. Il faut regarder du côté de tomber pour avoir l'équivalence de fall. Donc, Blocher, conscient de ce petit problème linguistique, mais surtout du problème de fond théologique, propose un autre terme qui est celui de rupture. Et il se base sur un passage en Osée 6, verset 7, « Mais eux, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. » Pour dire, en fait, ce qui se passe, là, en Genèse 3, c'est une rupture d'alliance. Nous allons voir que cette idée de rupture est très riche. Mais je ne vais pas essayer de vous proposer trois autres termes. Vous voyez là sur votre droite derrière, il y a une belle valise. Si elle était fermée et que je vous demande qu'y a-t-il dedans, je pourrais mettre une étiquette et je marque valise. Alors tout le monde sait, c'est une valise. Mais en disant valise, vous ne savez pas ce que c'est. Je peux marquer valise de voyage. Et ça ne suffira toujours pas pour savoir ce qu'il y a dedans. Il faut ouvrir la valise pour en connaître le contenu. C'est tout simple. Et donc, les mots que nous utilisons, création, chute, rédemption, eh bien, chaque fois, c'est comme une valise. Et on doit un petit peu ajuster ce qu'on met à l'intérieur de ces valises, ce qu'on entend, ce qu'on peut entendre. Donc, gardons en tout cas pour chute l'idée de cette transgression première, cette rupture d'alliance. Et puis rédemption. Vous auriez un équivalent de rédemption ?
Grâce.
Oui, rédempteur, ça c'est le mot correspondant.
Restauration.
Oui, restauration. Libération. Très intéressant. Libération. Oui. J'en entendais encore un autre. Oui, oui, alors ça c'est vraiment la signification. Je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça ici, mais oui, voilà, c'est la rédemption. Oui, ça c'était la chute. Mais je n'ai pas poursuivi, je me suis dit on va trop se distraire avec des images, mais c'était juste au début, puis après j'ai laissé la chute et la rédemption idéalisée. La rédemption représentée de façon un petit peu plus crue par Yip van Weinbergen. Pardon, Weingarten, oui, pardon, oui, enfin, hollandaise, mais qui vit en France. Rédemption, est-ce que ça ne voudrait pas dire sauver, ou est-ce que ça aurait un rapport avec salut ? À quoi est-ce qu'on pense ? Est-ce qu'on pense directement, comme vous venez de le faire, à rachat ? Ça, c'est très juste. C'est très juste parce que, en fait, rédemption est vraiment le mot qui parle latin redimo, pas redo, mais redimo, veut dire racheter. Donc, rédempteur, rédemption, c'est vraiment lié à la notion de rachat. Et les mots correspondants, je ne vais pas vous assommer avec de l'hébreu et du grec, mais les mots correspondants ne sont pas beaucoup utilisés. Sauf dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'agit vraiment du rachat d'une personne, quelque chose de très, très concret. Dans le Nouveau Testament, c'est très, très peu. Il n'y a vraiment que quelques occurrences, il n'y a même pas 10. Plus trop, pour ceux qui aiment connaître le mot. Donc, en fait, quand nous parlons de création, chute, rédemption, nous ne pensons pas à rachat. Nous pensons salut, être sauvé, c'est le fait d'être sauvé. Et quand on regarde de quelle manière, aussi en anglais, redemption est utilisé, ce n'est pas du tout lié à l'idée spécifique de rachat, c'est compris dans le vocabulaire courant de façon beaucoup plus large. Bien sûr, le rachat fait partie du salut, mais on pense beaucoup plus globalement. En tout cas, le mot, dans son usage, a un sens étroit, très technique pourrait-on dire, et puis un sens beaucoup plus large. Est-ce que tout est dit maintenant ? Non, pas encore, parce que assez rapidement, les penseurs chrétiens ont réalisé qu'on ne peut pas réduire l'action créatrice de Dieu au seul geste initial. Et on a proposé un autre terme, un terme en tout cas qui s'est popularisé, c'est « creatio continua ». La création est continue. Et quand on regarde, il y a plusieurs passages dans les psaumes, Dieu n'a pas arrêté. Sinon, on tombe dans l'image du grand horloger, cher à Voltaire. C'est-à-dire, Dieu a mis en place la mécanique du monde, et puis après, il laisse faire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, nous dit Colossiens 1, versets 15 et 17, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Subsister, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Et en Hébreu 1, au tout début de l'Épître, versets 2 et 3, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, c'est important aussi à retenir que le Christ, le Fils, seconde personne de la Trinité, est associé à la création. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est une action continue. Ce sont des aoristes d'ailleurs. Ou non, ici c'est un participe. Et donc, on a parlé de création continue. Le processus de création est quelque chose qui se poursuit. Qu'en est-il de la chute ? Bon, il y a une chute initiale, ou un péché, une rupture d'alliance initiale. Est-ce que le mal continue de se développer ? Non ? Non ? Vous avez un doute ? Bon, je vais vous confier une lecture. Vous lisez Paul Ricoeur. Aïe, aïe, aïe. Paul Ricoeur a très bien étudié cette question et formulé aussi de façon très simple. En fait, notre histoire personnelle s'inscrit dans l'histoire du mal. Il est impossible à un être humain de repérer son histoire personnelle sans tenir compte de l'existence du mal. On ne parle pas du péché personnel, on ne parle pas de tel acte ou tel acte, mais simplement le fait du mal. Il y a le mal qui nous précède, il y a le mal qui nous enveloppe, il y a le mal qui nous habite aussi. Il y a, pour la personne, il y a le mal commis, mais il y a aussi le mal subi. Et donc, notre histoire ne peut pas faire abstraction de l'histoire du mal, et le mal continue de se développer, de prendre des formes sans cesse nouvelles. Et enfin, la rédemption aussi est quelque chose qui n'est pas une fois pour toutes. Oui, la condition de la rédemption est accomplie par le Christ sur la croix. Elle est confirmée dans la résurrection, dans l'ascension et par l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte. Donc tout ça, ça fait partie. Mais Dieu sauve. Je pense que plusieurs d'entre nous pourraient témoigner aussi qu'il y a eu un moment où on ne connaissait pas Dieu et puis un moment où on le connaît. Dieu est intervenu. Et voyez-vous, même dans la vie des humains, mais aussi tous les miracles qui nous sont rapportés dans la Bible, sont des interventions directes de Dieu qui va outrepasser la mécanique de la nature elle-même. Dans le discours biblique, chaque naissance et chaque nouvelle naissance est un acte de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est pas juste le phénomène biologique qui se poursuit. En tout cas, ça c'est la perspective biblique. Alors, petite discussion entre théologiens. Peut-on limiter à trois points ou faut-il en ajouter ? Jean-René Moret, que j'aime bien, dit, voilà, il faut ajouter deux choses. Il faut ajouter conservation et glorification à ce schéma. Petit problème pratique, c'est qu'un schéma en cinq points, ça c'est déjà beaucoup plus difficile à populariser qu'un schéma en trois points. Mais en plus, bien sûr, il y a un agir de la conservation, et c'est intéressant. Dieu, on voit ça dans Romains 13, Matthieu 19, 1 Pierre 2, versets 13 à 17, Dieu agit dans le monde pour freiner le mal qui se développe au travers de l'humanité. Et si Dieu ne freinait pas le développement du mal, eh bien, l'humanité est parfaitement capable de s'auto-détruire. Il n'a pas fallu attendre la bombe atomique pour en être capable. Déjà avant, avec d'autres moyens, et les génocides du XXe siècle sont là pour nous le rappeler, l'être humain est capable de s'auto-détruire dans une énorme mesure. Donc, cette capacité est freinée par Dieu. Il y a une action. Dieu sauve, nous sauve du pire. Ça c'est par rapport à l'ordre de la conservation. Mais en fait, si je dis Dieu nous sauve du pire, j'assimile déjà cette préservation à une forme de sauvetage, donc de salut. je pense qu'on peut inclure cette préservation dans la rédemption. Et de même pour la glorification, bien sûr, il y a un passage à l'infini, si je peux l'exprimer ainsi, mais en même temps, le salut mis en route dès Genèse 3, par la promesse, enfin disons la sanction de Dieu vis-à-vis du serpent, quand il dit qu'il mettra l'inimité entre sa semence et la semence de la femme, et tu lui mordras le talon, celle-ci écrasera ta tête. Donc voilà, en un sens, le programme de la rédemption est déjà annoncé à ce moment-là. Il atteint son paroxysme, son sommet dans le sacrifice du Christ, mais finalement sa réalisation ultime de la rédemption, eh bien, c'est la glorification, c'est l'étape ultime de l'éternité, où le temps que Dieu a créé cesse d'être pour entrer dans une autre dimension. Honnêtement, nous ne sommes pas vraiment capables de nous représenter. Hein, c'est parce que nous vivons dans le temps, nous ne pouvons pas nous imaginer les choses comme ça. Mais donc, création, chute, rédemption sont trois notions qui sont ancrées, trois moments dans l'histoire du salut, mais en même temps, ce sont trois éléments qui sont permanents, et s'ils sont permanents, ils vont s'entrecroiser, ils vont être entrelacés, pour ainsi dire. Ce sont trois moments créateurs et trois dimensions de l'existence qui sont toujours en cours et toujours entrelacés. Ce n'est pas ou bien. Ah oui, nous on est une église de création ou les autres, ah non, nous sommes une église de la chute. On ne va pas créer des chapelles en ce sens-là. Alors, du coup, moi j'oublie tout à fait qu'il y avait ici. Voilà. Voilà. Oui, je suis là. Donc, et j'étais un peu perturbé parce que mon écran montre aussi la diapo suivante, du coup je ne savais plus où j'étais, mais je suis bien là. Je suis bien à ma troisième partie, création, chute, rédemption, pour un petit peu réfléchir quand même. Alors, par rapport au domaine des arts, qu'est-ce que ça peut donner? Il y a quand même un problème qu'il faut voir en face, c'est que la Bible en tant que telle ne parle pas des arts. Il n'y a pas un passage particulier où on peut dire, voilà, ici, explicitement, la Bible se prononce sur les arts. La Bible se prononce sur un tas de points de vie, mais elle montre des exemples d'actions artistiques, ça absolument, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas une théorisation biblique directe du domaine des arts. Alors, Arthur Danto, qui est quand même un spécialiste assez reconnu pour le domaine pictural, dans La Transfiguration du banal, cite un autre auteur, Canic, qui fait remarquer « Nous savons ce qu'est l'art aussi longtemps que personne ne nous le demande. » Oui. C'est évidemment, il faut penser à Augustin, quid est tempus, qu'est-ce que le temps? Et bon, ben, le temps, je sais ce que c'est, mais si on me demande de le définir, tout à coup, je ne sais plus comment le dire, parce que le temps, oui, ben, c'est ce qu'on vit, on est dedans. Ce n'est pas un objet extérieur, une montre, je peux dire, voilà ce qu'elle est, je peux même regarder ce qu'elle indique. Donc. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'art? Alors, précision, je le lis comme je l'ai marqué, on entendra art non pas dans l'acception restreinte de la peinture ou des seuls arts plastiques, parce que c'est une façon d'employer le mot, mais au sens large de toute forme d'expression esthétique dans quelque domaine que ce soit, art du temps, art de l'espace, art du verbe, du son, de la forme, art du mouvement. Sans préjuger des questions de qualité, grand art, art populaire, comme ça se fait souvent. Donc art au sens le plus général du terme. Comment peut-on considérer, à partir de notre perspective, création, chute, rédemption? Je vous propose ceci. La pratique artistique, qu'elle engendre ou non une œuvre matérialisée, est un possible de l'humanité. Une capacité sans nécessité matérielle intrinsèque liée à la survie, donc de l'ordre des besoins primaires, qui répond à des pulsions créatrices de certains individus, rejoint par une réceptivité concordante de la part d'un ou plusieurs autres individus, voire d'une société ou d'une frange de la société, enclin à vivre, rencontrer, accueillir, goûter, contempler ce qui a été amené à l'existence. Bon, ça fait une longue phrase. Hein. Donc, la pratique artistique, pourquoi pas dire l'art ? Mais parce qu'on a tendance à fixer le mot art avec des objets. Mais si j'improvise musicalement, il n'y a pas d'objet. Et si je n'enregistre pas, il n'y a aucune trace. Et pourtant, c'est une forme d'art. Si quelqu'un fait une danse et il n'y a rien qui est filmé, on ne va pas le reproduire. Eh bien, c'est un acte artistique, mais il n'y a pas d'objet artistique. Donc, c'est l'agir artistique qu'il faut regarder et pas uniquement les objets. Les objets, c'est la trace. La partition n'est pas la musique. Une partition qui n'est pas jouée, il n'y a pas d'œuvre artistique réelle, vivante. Donc, voyons l'art dans ce qui est mis en œuvre. Et alors, c'est un possible de l'humanité. Comme j'ai dit il y a un instant, Dieu crée la matière, crée des univers, crée des exemples aussi. Les couleurs, les formes sont présentes dans la nature. Dieu crée un être humain qui est capable de prendre dans la nature et de développer des choses. Et puis, à la génération suivante, on reprend ces choses, on les redéveloppe. Et chaque fois, donc, il y a une sorte d'accumulation d'expériences. Et encore une fois, si vous regardez dans le psaume 104, vous verrez que la création de Dieu et la transformation humaine sont alignées. Et la transformation humaine, par exemple le fait de faire du pain ou du vin, est assimilée à la création. C'est dans le prolongement de. Et puis, il y a ces êtres humains qui sont capables de recevoir des choses et qui, quelque part, ont envie de recevoir ces choses. Sinon, on ne va pas à un concert, on ne va pas à une exposition, on ne va pas dans un théâtre et dans d'autres choses encore. S'il n'y a pas des gens qui ont envie de recevoir, ça ne servirait à rien qu'il y ait des gens qui ont envie de faire ou de produire, de se produire éventuellement. Donc, nous sommes là dans quelque chose qui touche aussi aux réalités sociales, qui ne sont pas identiques d'une époque à l'autre. Donc l'art, l'action artistique, je pense que nous devons, à partir de la Bible, la voir d'une façon extrêmement large. Alors évidemment, on peut s'amuser par rapport au titre de cette journée. Je n'ai pas pu faire autrement. Je me suis dit, oui, voilà, il y a Joseph Haydn qui a écrit « La création ». Alors là, on est vraiment dedans. Arvo Pärt a écrit « In principio », au commencement. Il se réfère à l'évangile de Jean. Ah, il y avait un groupe rock, Genesis, oui. Mais il y a le premier disque, « From Genesis to Revelation ». Mais ils n'étaient pas chrétiens. Non, ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient très embêtés qu'on les assimile et que leurs disques, ils ont protesté auprès des disquaires parce que leurs disques se trouvaient dans les disques religieux. Et ça, c'était vraiment pas leur idée. Donc, voilà. Alors, pour la chute, bon, vous regardez du côté d'Albert Camus, la chute, c'est le titre d'un livre, mais bon, à part que le personnage central ressemble un petit peu à Jean-Baptiste, mais sinon, il n'y a rien de religieux dans ce livre-là. Et un petit peu plus proche de la Bible, vous avez dans ce triptyque, c'est Lydia Yeager qui utilise le terme de triptyque pour création, chute, rédemption. Il y a Paradise Lost de John Milton. Bon, 1667, c'est un petit peu vieux quand même, ça date, mais enfin c'est la même époque que Shakespeare. Et puis, à la même époque, dans une région dont vous ne connaissez pas la langue, aux Pays-Bas, il y a le prince des poètes, le père de la littérature néerlandophone, Joost van den Vondel, qui a légué à la postérité un Lucifer, Adam en exil, Adam in ballingschap, qu'il surnomme Aller Treurspel, donc Adam en exil, c'est le drame de tous les drames, Et donc, il traite vraiment, je dirais, la matière biblique, là, telle qu'elle est. Mais en complétant, évidemment, avec l'imagination, ce que le texte biblique, qui est extrêmement sobre, ne dit pas. Vous pouvez aller voir du côté de Dante Alighieri et la Commedia, plus tard surnommée la Divina Commedia, avec bon, le texte « L'Enfer ». Mais « L'Enfer » parle pas tellement de l'enfer, il parle de la vie terrestre. Et disons l'imagerie de l'enfer est utilisée pour critiquer la société de l'époque. Mais bon, ah oui, et j'ai trouvé aussi de César Franck, compositeur belge qui vivait à Paris, Rédemption, sur un poème symphonique qui s'intitule Rédemption. Mais bon, ça c'est un rapport un petit peu anecdotique avec notre thème. Ça existe et il y en a sûrement encore beaucoup d'autres, j'ai pas poussé plus loin, mais je crois que c'est à un niveau plus profond que nous devons chercher le rapport. Quand nous avons lu là tout à l'heure, j'essaie encore toujours de trouver la bonne distance avec ce machin. Nous avons lu ce passage où il est dit que Adam mit au monde Yabal. Quelle est la portée de ce texte? Donc c'est Genèse 4. Eh bien, il y a un principe. Dieu a créé l'humain et lui a donné une mission de remplir la terre, de la dominer et puis de cultiver, de garder le jardin. Quand on regarde ça, est-ce que ça s'arrête avec la chute? En fait, non. Cette alliance initiale va être confirmée, entre autres, en Genèse 9, avec Noé. Mais dans ce passage-ci, il y a quelque chose qui est annoncé. Il ne faut pas maximaliser le fait que ce soit dans la descendance de Caïn et que ce serait marqué par le péché, parce que de toute façon, toutes les descendances, ça s'arrête avec Noé, puisque là, l'humanité recommence. En tout cas, ça, c'est la perspective biblique. Mais de quoi sont capables, en fait, de quoi s'avère capable cette génération, qui sont quand même, disons, on est à la quatrième génération après Adam, eh bien, tout d'abord, ils sont capables de créer, non pas ex nihilo, mais de créer à partir de ce qui existe, donc de produire des choses qui sont nouvelles, qui n'ont pas existé auparavant. Donc de développer un domaine agraire, s'occuper des brebis. S'occuper des brebis, c'est pas juste les regarder, il faut s'en occuper, il faut les soigner, un troupeau doit être guidé. Et puis il y a le domaine de la musique, qui est symbolisé par deux instruments, hein, harpe et le chalumeau en fait, c'est pas la flûte, c'est le chalumeau, c'est même un instrument à hanche tel que c'est marqué. Et puis il y a la technique qui va aider l'homme à cultiver la terre, ou autre chose encore. Donc le thème théologique de Genèse 1 à 11, c'est l'humanité est déchue de ce qu'elle avait de plus précieux, c'est-à-dire de vivre en communion permanente avec Dieu. Elle est habitée, sa vie plutôt, est traversée par le mal, mal subi, mal commis, mais dans sa grâce, Dieu permet à l'humanité de développer des choses. Et le mandat initial, qu'on pourrait appeler le mandat créationnel, qu'on peut aussi appeler le mandat culturel, va pouvoir se développer sur la terre, les choses ne sont pas arrêtées. Et Jean Calvin a assez bien développé, mais je ne vais pas prendre toutes les citations parce que je vois que le temps avance. Je voulais ceci, donc dans l'institution chrétienne, maintenant pourrons-nous nier que les anciens jurisconsultes, donc les juristes, n'ait eu grande clarté de prudence en constituant un si bon ordre et une police. Police, c'est pas la police, hein, c'est l'agencement si équitable. Dirons-nous que les philosophes aient été aveugles, tant en considérant les secrets de nature si diligemment qu'en les écrivant avec tel artifice. Dirons-nous que ceux qui nous ont enseigné l'art de disputer, donc l'art oratoire, qui est la manière de parler avec raison, n'ait eu nul entendement. Dirons-nous que ceux qui ont inventé la médecine ont été insensés? Et estimerions-nous rien excellent ni louable que nous ne reconnaissions venir de Dieu? La question est assez forte. Et il poursuit, puisqu'il en est ainsi que ces personnages qui n'avaient autre aide que de nature ont été si ingénieux en l'intelligence des choses mondaines inférieures, donc pas des choses spirituelles en tant que telles. Tels exemples nous doivent instruire combien notre Seigneur a laissé de grâce à la nature humaine après qu'elle a été dépouillée du souverain bien. Toutefois, il ne faut point oublier que toutes ces grâces sont dons de l'Esprit de Dieu qu'il distribue à qui bon lui semble pour le bien commun du genre humain. Je pense que ça, c'est vraiment un point extrêmement important à retenir, c'est que la grâce de Dieu, il y a la grâce du salut, elle est au centre de notre attention, c'est normal, ça concerne la vie présente et éternelle en Christ, mais le terme grâce et même la notion de Dieu qui sauve peut être étendu à d'autres aspects de l'existence. Et donc, les bonnes choses, je ne parle pas maintenant des mauvaises choses, mais les bonnes choses qui nous viennent au travers de la culture, qui nous viennent au travers d'êtres humains et pas forcément des chrétiens, le bon pain que le boulanger païen nous cuit, c'est du bon pain et je peux rendre grâce à Dieu parce que Dieu a permis que le boulanger fasse du bon pain. Et alors, bon, j'ai pas besoin de vous faire l'application au domaine de l'art, ça on peut le faire chacun pour soi, mais ces grâces naturelles, comme les appelle Calvin, ou ces grâces générales, cette grâce commune, Dieu fait briller son soleil sur les bons et les méchants, et il donne sa pluie sur les justes et les injustes. C'est Jésus qui dit ça, en Matthieu. Tim Keller conclut, parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et ont reçu de lui leurs talents et aptitudes pour travailler dans le monde, nous ne devrions pas être surpris que de nombreuses personnes qui ne croient pas en Jésus puissent faire un très bon travail. Là, il manque un mot. Hein. Parfois meilleur, même que celui d'un chrétien. C'est pas toujours, mais parfois c'est meilleur qu'un chrétien. Alors, je regarde ma montre là. J'ai toujours ce problème là. Donc, le monde des arts n'échappe évidemment pas à l'emprise de la chute. Alors, je vais faire un petit choix ici dans ce que je partage encore avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a autour de nous des gens qui produisent des œuvres d'art, qui ont des actions artistiques, et il n'est pas a priori interdit aux chrétiens de les recevoir avec action de grâce. C'est une façon un petit peu plus large de comprendre le texte de Timothée. On a tendance à ne voir ça que pour les choses qui viennent directement de la nature, mais celles qui transitent par la culture peuvent être reçus dans le prolongement. Évidemment, il y a un discernement à exercer. Il y a aussi des formes d'art qui tendent à dévoyer l'être humain, à le pervertir. Il y a des œuvres qui sont idolâtres. Cet après-midi, je vais vous faire entendre quelque chose et j'espère vous faire sursauter. Il y a aussi le danger. Bon, je suppose que vous avez tous un petit peu perçu cette évolution de l'art qui se dessine à partir du 19e siècle et aboutit au 20e, où l'art devient une sorte de summum de l'humanité. Je l'ai plus loin, mais j'ai ce cher monsieur Rockmaker, avec son livre en français « L'art moderne et la mort d'une culture » qui dessine bien cette espèce d'hypertrophie du rôle de l'artiste. Qui commence philosophiquement un petit peu plus tôt, au 18e, mais dans le monde artistique même, c'est au 19e que ça se développe, et l'artiste devient une sorte de génie, d'abord on emploie le mot de génie, qui est capable de créer ce qui est sublime, et un Wagner par exemple essaye de créer un Gesamtkunstwerk, une œuvre, on ne peut pas employer le mot totalitaire, mais une œuvre de totalité, donc qui englobe tout. Et l'artiste devient une sorte de prophète des temps modernes. Il y a un tableau de James Ensor, peintre belge, qui représente la joyeuse entrée du Christ à Bruxelles, mais en fait, ce n'est pas Christ qui est sur l'âne, là, au milieu de la foule, c'est le peintre, c'est lui-même. Oui. Il y a de Gustave Courbet, l'atelier du peintre, et d'où vient la lumière dans ce tableau? Elle vient du centre, elle vient du peintre. À côté du peintre, il y a une femme nue qui est le modèle. Et puis, vous avez tous les philosophes et tout ce qui représente le monde qui est tourné vers le peintre. Le peintre, c'est l'artiste. Alors là, on a une déification de l'art et de l'artiste. Mais ça ne veut pas dire que les produits artistiques chez nous auront cet impact. Ils ont cette signification en eux-mêmes. Après, il y a différentes façons de les regarder. J'aime bien prendre l'exemple aussi des cathédrales. Il y a beaucoup de façons différentes de voir les cathédrales. J'allais dire, il y a des façons incendiaires de les regarder, mais ça c'est un petit peu dangereux. Mais enfin, le monument le plus visité de France, jusqu'à il y a peu, c'était Notre-Dame de Paris. 13-14 millions de visiteurs par an. Combien de visiteurs regardent là, plus haut que le plafond, vers Dieu lui-même? Sûrement une partie. Il y a des gens qui vont là aussi par piété, mais ce n'est pas la majorité. Donc là, l'art est devenu un musée. Il y a une muséification de l'art. En musique, on a ça aussi. Les gens vont écouter, j'en toucherai aussi un tout petit mot tout à l'heure, vont écouter la Passion selon Saint Matthieu de Bach, par exemple, ou une œuvre du même genre. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prie? Non, à la fin, on applaudit. Et combien de personnes ont écouté le contenu profond et ont été sensibles à ce contenu profond? Très peu. Très peu. Combien de musiciens y ont pensé? Très peu. Pour avoir joué et parfois chanté, alors jouer la Passion de Bach et chanter le Messie de Handel, eh bien, quand on est dans l'équipe active, ce n'est pas la spiritualité qui domine, c'est la musicalité qui est là. Ce qui est une bonne chose en soi, mais il y a un appauvrissement de la richesse spirituelle de ces œuvres, donc une muséification. Je pense que ça, c'est un danger considérable. Alors, écoutez, là, je pense que je vais devoir juste esquisser. Il y a, pour ceux qui ont envie de creuser dans ce domaine, je ne vais pas dire tout ce que j'avais marqué, mais si vous voulez creuser, il y a aux Pays-Bas et aux États-Unis des penseurs essentiellement réformés qui ont réfléchi génération après génération sur qu'est-ce que l'art et comment aborder l'art d'un point de vue théologique. Ici, ça c'est Kuiper, ça c'est Doeweert qui a dit mais chaque sphère de l'existence a son autonomie propre et donc on doit considérer l'art à partir de l'art et pas considérer l'art à partir des mathématiques ou de la linguistique. Donc chaque sphère est spécifique. Il y a Rockmaker avec, je pense encore toujours, son incontournable l'art moderne et la mort d'une culture. À quoi a répondu Monsieur Zierveld en disant non mais l'art dans son essence c'est le fait de dire des choses, d'exprimer des choses de façon indirecte, donc de procéder par allusion. L'art n'est jamais explicite, sinon il diminue en artisticité, mais il réfère à un monde et il exprime des choses. Et puis Walter Storff qui a dit, oui mais surtout l'art, il est conditionné aussi par le circuit social au sein duquel il peut se développer. Ce n'est pas la chose en soi, c'est la chose telle qu'elle est reçue et perçue dans la société. Voilà, alors, je vais m'arrêter là, j'avais encore un mot de conclusion, mais on verra selon vos questions, vos interrogations.
Merci Jean-Claude. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une ou deux questions ?
Vous avez évoqué la manière dont est reçue les œuvres, quand vous parliez par exemple de le morceau de Bach ou de la cathédrale de Notre-Dame, vous dites c'est rigolo parce que combien on levait le regard un peu plus haut. Et c'est une question que je me posais. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas comme la parole qu'on lit, à savoir que l'art, c'est quelque chose qui est offert, et après, ça ne nous appartient pas de si c'est reçu ou pas.
Oui, tout à fait. L'œuvre, une fois qu'elle est faite, elle a sa vie propre. Donc, que ce soit un livre ou que ce soit une œuvre d'art, elle est livrée, pour ainsi dire, et donc elle est entre les mains de ceux qui vont l'utiliser. Un livre qui n'est pas lu, eh bien voilà, c'est fini. Il a son contenu. La différence, c'est que quand c'est une parole, écrite ou prononcée, si quelque chose n'a pas été comprise, c'est avec des paroles qu'on va la réexpliquer. Il y a une anecdote, on ne sait pas si elle est vraiment authentique ou pas, mais à Beethoven, on demande sa Mondscheine sonate, sa sonate au clair de lune. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette sonate? Et puis, ben, pour toute réponse, il s'assied au piano et il la rejoue. Parce que, en particulier, les œuvres musicales ou l'art abstrait en peinture, si on va coller des mots dessus, ce sont des explications, mais les explications n'épuisent jamais ce que l'œuvre d'art est en elle-même. J'aime bien l'exemple de la cathédrale parce que on peut voir la cathédrale en historien, on peut la voir en peintre, on peut la voir en architecte. Un de mes étudiants avait fait une étude sur la cathédrale de Strasbourg et puis alors il avait sorti des tas de caractéristiques vraiment de la construction en elle-même auxquelles moi je n'aurais jamais pensé. Moi, si je suis dans une cathédrale comme ça, je peux penser à Dieu, je peux penser à ce qui a dévié, mais aussi ce qui a conduit à Dieu, parce que finalement une cathédrale c'est un endroit de prière aux origines, mais il est traversé par d'autres choses. Comment est-ce qu'on les voit? Il y a des centaines de façons différentes de voir une cathédrale, par exemple, aussi. Après, il y a une synthèse qui s'opère dans la société. Parce que, comment est-ce que vous écoutez les disques des Beatles?
Moi, vous avez
ça? Oui, par exemple, oui.
Moi, j'aime beaucoup.
Oui, voilà. Quand moi j'avais 15 ans, donc il y a très longtemps, chez le coiffeur, on me demandait alors, tu veux comment? À la Beatle ou normal? Parce qu'à la Beatle c'était plus long. Voilà, tout le monde connaissait, certains écoutaient, certains pensaient connaître mais ne connaissaient pas vraiment, certains étaient emballés. Quand ils sont allés aux États-Unis et que John Lennon a dit « Maintenant, je crois qu'on est plus célèbre que Jésus-Christ », ça s'est mal passé aux États-Unis. Vous pouvez dire ça en Angleterre, il ne fallait pas le dire aux États-Unis parce que ce n'est pas la même culture. Donc du coup, il y avait beaucoup moins de gens hein, dans leur concert. Donc, voilà. Donc une interaction sociale. Aujourd'hui, c'est la musique des grands-pères, ça. C'est pas la musique de la jeunesse. Ça a été la musique de la jeunesse. Beethoven, individuellement, évidemment, il y a des variantes. Beethoven, Bach, on l'a critiqué il était critiqué par les autorités communales parce que sa musique était trop agressive. Bon. Bach, oui, musique trop agressive. Il chargeait trop les accords, etc. Donc il se faisait taper sur les doigts, au sens figuré, heureusement, par la municipalité. Beethoven, aujourd'hui on dit que ça fait partie de la musique classique. En fait, à son époque, c'était révolutionnaire. Et les gens étaient partagés. Il y a des Berlioz qui décrit comment Beethoven est reçu à Paris quelques années, enfin pas lui-même, mais sa musique est reçue à Paris. Et les disputes qu'il y a autour de sa 5e symphonie avec quelques-uns qui sont pour et la majorité qui trouve que c'est pas de la musique. Debussy, Monsieur Croche, il écrit sous le nom de Monsieur Croche, critiquait Johannes Brahms en disant ce monsieur ne sait pas écrire de la musique, il ne sait même pas écrire une mélodie. Donc les regards sont différents les uns des autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je réponds trop longuement là. Oui.
C'est par rapport à ce que vous avez dit sur fait que la manière dont l'art exprime aujourd'hui les arts contemporains, je suis d'accord. Mais après, ce qui me fait penser, c'est que à l'époque, la société était aussi beaucoup plus fortement cristallisée. Et est-ce que du coup, il faut vraiment se plaindre que l'art se soit éloigné de la Bible? Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi une manière de libération par rapport à une confusion en fait entre la foi et le fait social?
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est même la thèse de ce monsieur-ci, Kuyper, qui disait finalement, il utilisait l'expression de calvinisme, a libéré l'art de la tutelle de l'Église et a rendu l'art à la société. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de mainmise sur l'art et un enfermement dont il a fallu se délivrer. Maintenant, Luc Ferry, autrefois ministre de l'Éducation nationale, pour ceux qui ont connu ce passage-là, mais enfin philosophe, il dit « L'histoire de l'art ne peut pas être comprise si on ne la voit pas comme une libération progressive de toutes les tutelles jusqu'à ce que l'être humain prenne tout à fait en main sa propre destinée et fasse de l'art uniquement l'expression de sa propre humanité. » Alors là, oui, on peut encore aller un petit peu dans son sens, à condition que notre humanité soit bien comprise, et en tant que chrétien, nous comprenons notre humanité différemment. Et la postmodernité nous offre une possibilité, je pense, parce qu'il y a une ouverture à la spiritualité. Alors, c'est à la fois une ouverture et un piège. Ouverture dans le sens qu'il y a une recherche de choses plus essentielles ou suressentielles par rapport aux choses matérielles, et l'art fait partie de ce qui est possible dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une opportunité. Mais il y a un piège aussi, c'est que finalement, tout ce qui est spiritualité est confondu. Et donc, il y a une sorte de c'est même plus du syncrétisme, c'est une sorte de grand magma spirituel dans lequel le christianisme peut trouver sa place gentiment, à condition de considérer que sa place n'est en rien différente de la place de tous les autres. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, mais à la fois, c'est une opportunité, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce qui élève, ce qui nous pousse en dehors du matérialisme pur. Et l'art, par essence, est quand même le non nécessaire, le non vital. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin d'habiter quelque part. Je n'ai pas absolument besoin d'art. Je peux vivre dans une maison où les murs sont nus. Mais alors là, c'est comme Vladimir Yankelevitch qui disait « L'homme peut très bien vivre sans philosophie, mais moins bien. » On peut l'appliquer à l'art, il l'appliquait lui à la musique. Yankelevitch, on peut très bien vivre sans musique, mais moins bien quand même.